إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على صفوة الخلق المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، donc nous allons terminer inshallah la sourate al-Kahf pour terminer la session de cette année concernant ce chapitre du Coran. Donc nous avons vu dans la session dernière que Moïse va se retrouver face à trois actions de Khosr, donc de l'homme qu'il suivait, sans trop bien les comprendre. Donc pour ainsi dire, sans les comprendre du tout, puisque chaque fois il va l'interlocuter pour lui demander pour quelle raison il effectuait ça. Donc le premier des événements, c'est quand il casse ou il détériore la barque de barge qui lui a servi pour passer la rivière, en sachant que les gens lui ont pas fait payer le passage. Et donc si vous voulez, c'est un bienfait, une mauvaise action contre un bienfait qu'on lui a fait. Et la deuxième chose, il rencontre un enfant qu'il tue sans que pour cela il ait des raisons. Et la troisième chose, il se remet à construire un mur dans un village où les gens ont refusé de lui donner l'hospitalité. Et ce qui était bien sûr à l'époque, même on pourrait dire de nos jours, quelque chose qui est répréhensible, puisque l'hospitalité, quelle que soit la manière dont on l'envisage, que de la partie antique où on toque à une maison pour demander de passer la nuit et d'être nourri, ou qu'on appelle actuellement le droit de refuge chez les gens, c'est appliqué par toutes les civilisations. Du moins, elle est admise. Si elle n'est pas appliquée totalement, elle est quand même admise comme étant faisant une partie, une valeur référence de l'homme. Et en même temps, nous avons donc des actes, nous avons les réactions de Moïse. Et entre les deux, on a un rappel de la promesse. C'est la page 447. C'est la promesse que Moïse a faite donc à cet homme pour pouvoir le suivre. C'est-à-dire qu'il ne lui pose pas de questions sur ce qu'il voit ou ce qu'il fait. Et Moïse, en enlevant le fait qu'il soit prophète, il reste néanmoins un homme, et quand il y a des choses qui vont le choquer, il va réagir inconsciemment ou poussé par l'acte qu'il vient de voir. Et nous arrivons maintenant à
77.
Ouais, on arrive maintenant au fait que le Khosr donc décide de se séparer à lui après la troisième intervention, donc après la reconstruction du mur, et il va pouvoir lui expliquer le pourquoi de ses actes. Alors il commence par lui dire d'abord le bateau appartenait à des infortunés qui travaillaient en mer. J'ai voulu le rendre défectueux car derrière eux il y avait un monarque qui confisquait tous les bateaux. Alors l'histoire, c'est quoi? C'est que un roi était en train de confisquer les bateaux pour monter une armada marine pour pouvoir envahir un autre bateau. En fait, en rendant le bateau non navigable provisoirement, puisque le trou qu'il a fait le rendait provisoirement, parce qu'on peut réparer un trou dans un bateau, le rendait provisoirement et non utilisable. Et donc quand le roi voudra réquisitionner ce bateau-là, il ne pourra pas le réquisitionner étant donné qu'il n'arrive pas à naviguer. Donc en fin de compte, ce qui nous a paru, nous, comme un acte tout à fait déraisonnable et même contraire à la bonne séance, puisqu'ils le font traverser gratuitement le fleuve, et lui, il leur casse leur bateau, quelque chose vraiment très répréhensible, et en fin de compte, il leur a rendu service, en quelque sorte, puisqu'ils vont garder leur bateau. Et ce qui est intéressant dans l'explication, c'est qu'il disait qu'il appartenait à des gens nécessiteux, donc non fortunés, qui, leur seule ressource, c'est ce bateau, en fait. Donc, il l'a sauvegardé par un acte qui semble être déraisonnable au début, leur avenir. C'est-à-dire que leur avenir était complètement compromis si le roi avait récupéré le bateau et ils n'auraient pas pu, ils auraient plus eu de source de source financière pour se rendre. Donc, il l'a rendu défectueux pour pouvoir justement les sauver.
Pour que
le roi ne puisse pas.
Le bateau il est cassé et ils peuvent pas s'en servir non plus.
Ils peuvent le réparer après. Ils vont peut-être rester quelques jours sans pouvoir l'exploiter, le temps de le réparer, mais le bateau leur restera à eux et le roi sera passé et le bateau sera resté sur place. Donc c'est ça l'avantage, c'est que on a un acte généreux qui est la réaction de l'acte généreux, c'est un acte complètement incompréhensible, le fait de casser le bateau. On s'aperçoit qu'en fait, après, le roi ne pourra pas récupérer le bateau, donc on va comprendre que l'acte la conséquence de l'acte est quelque chose de bien, même si provisoirement ils ne pourront pas exploiter leur bateau, mais ils pourront l'exploiter après. Donc le temps où ils auront des problèmes de ressources sera minime, il y aura moins d'impact sur eux que le. Si nous le reportons ça sur nos actes de tous les jours, on s'aperçoit que quelque chose qui nous paraît complètement injuste, qui vient de nous arriver, a pour conséquence un bienfait que nous ne pourrons pas voir que lorsque le bienfait commencera à se réaliser. Et donc, ça incite le croyant à ce que. On en a déjà parlé une fois, la destination ou la prédestination de Dieu, c'est que nous connaissons les choses qu'une fois elles sont accomplies. Ça fait toujours penser à un proverbe, on dit les prophéties ne se révèlent que lorsqu'elles sont accomplies. C'est-à-dire qu'une fois que les prophéties, on prophète qu'il y a quelque chose qui va arriver, en fait on ne sait pas, mais après qu'un événement est passé, on dit « Ah, mais ça correspond à la prophétie », on colle une prophétie sur quelque chose qui s'est passé. Mais là, c'est tout à fait différent, puisque nous avons quelque chose de négatif qui arrive au début, mais on s'aperçoit après coup que ce côté négatif était tout à fait positif. Ce qui fait que ça incite le croyant et le musulman, le verset va dans ce sens, à ce que quand quelque chose nous arrive, nous ne réagissons pas à chaud en disant « Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, c'est Dieu m'en veut, je suis catastrophé et tout. » D'attendre quel est le résultat de ce qui va arriver, en sachant très bien que le résultat de ce qui va arriver nécessite toujours un travail personnel. Le bateau ne se réparera pas tout seul. Donc, il y a quelque chose de négatif, on va faire un travail, mais on retrouvera la situation normale après.
Ouais, mais il est où l'avantage en fait ?
L'avantage, c'est dans le fait que quand quelque chose t'arrive, si c'est la première impression, c'est le négatif, ce n'est pas forcément ce qui va en découler après. Donc, si ta réaction, on peut réimaginer la scène se déroulant ainsi. Les gens, on leur casse le bateau, donc on leur a fait un trou qui est tout à fait réparable, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils abandonnent le bateau, ils partent ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ? Ils auront perdu leur bien, ils ont tout perdu. Alors qu'en se disant « Ah, mais il est fou, il nous a cassé notre bateau alors que nous, on l'a fait voyager. »
Parce que moi, j'ai un exemple. En fait, dans ma tête,
vas-y.
Hier, j'ai grillé le moteur de ma voiture. Voilà. Donc, ça m'arrivait, j'étais un peu dégoûté au début. Après, je dis « Bon, c'est pas grave, je m'en fous. » Mais après, je vois pas qu'est-ce que ça va m'apporter de bien.
Tu ne sais pas.
À part que ça va me coûter de l'argent, toi, en fait.
Tu ne le sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne le sais pas du tout, parce que là, c'est un fait. Il faut faire la séparation entre deux choses. Là, on a l'explication donnée par le Chovah. Mais est-ce que les gens du bateau se sont rendus compte? On ne le sait pas.
L'explication, il l'a donnée après, donc les gens du bateau n'étaient pas présents et n'ont pas entendu.
Non, non, ils ne le savent pas.
Donc peut-être que pour eux, ça reste injuste.
Ça reste tout à fait injuste. Est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, même si le roi était passé, il aurait envoyé des soldats pour voir le bateau, ils ont vu que le bateau était dans l'eau, il leur a rien dit, ils seraient repartis en disant, roi, on ne peut pas récupérer ce bateau, il est cassé. Eux ne savaient pas que le roi allait récupérer le bateau. Donc, ils ne savaient rien du tout. Donc, pour eux, ils restent sur l'injustice qui a été commise. Et donc, ils ne peuvent pas le savoir. Mais, ils auraient pu le savoir par oui dire en disant qu'on a entendu que le roi récupérait les bateaux des autres pêcheurs et ainsi de suite. Donc, ils se sont dit, ah, mais c'est quand même une chance que notre bateau a été esquinté provisoirement. Et donc, c'est un acte injuste qui nous a fait l'autre de nous casser le bateau. Mais, en fin de compte, on en est sorti. On peut imaginer toutes les possibilités. Dans ton cas, à toi, tu ne le sais pas. Tu aurais pu avoir un accident. Voilà. Tu le sais, est-ce que tu peux le savoir à cause de... Tu ne peux pas. Donc, si vous voulez, ce qu'on appelle actuellement dans les méthodes modernes, les trucs comme ça, le fait de positiver les situations, c'est-à-dire que quelque chose m'arrive de négatif, je dis, ah, mais en fin de compte, c'est moins pire que si je me casse un doigt, c'est moins pire de me casser une jambe. Et si je me casse une jambe, c'est moins grave que si on me l'ampute. Et ainsi de suite. Donc, si on part sur une idée positive, on restera toujours sur le côté positif. On restera toujours, l'idée est très intéressante dans ça, on va rester toujours du bon côté de la rive. Là, on a l'idée de la rive. C'est-à-dire le bateau qui part d'une rive à une autre. L'idée de la rive est très intéressante parce que vous vous rendez compte, ils étaient sur un bateau, ils étaient sur cette rive, ils sont montés, ils sont arrivés de ce côté-là, et où est-ce qu'il a cassé le bateau? Sur l'autre rive. Et donc, ils n'ont pas pu revenir à la rive, à la première rive. Vous saisissez? Donc, on a cette perception de passer d'un état à un autre, mais avec une action pour pouvoir relier les deux rives ensemble, c'est le fait de fournir un travail personnel pour pouvoir retrouver la situation d'avant. Donc, quand tu auras réparé ton moteur, peut-être, je ne sais pas, peut-être que tu comprendras que tu as échappé à quelque chose de pire que le fait de casser le moteur. Mais ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que, par exemple, dans l'islam, on dit toujours qu'il ne nous arrive rien d'injuste, même si c'est une épine qui nous rentre dans le pied, sans que Dieu nous le récompense par une partie de la rédemption de nos péchés, il efface nos péchés, ou il nous donne une place meilleure dans le paradis, ou il empêche quelque chose de mauvais qui nous arrive. Dans les trois cas, à l'heure où ça nous arrive, on ne peut même pas se rendre compte. Parce que comment voulez-vous savoir, quand vous êtes vivant, quelle est la part de votre paradis? Ou si vous allez au paradis, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas savoir si que quelque chose qui allait vous arriver, et si elle ne vous arrive pas, vous ne pouvez pas savoir que vous y avez échappé. Et ainsi de suite. Il est très difficile de savoir ce qui va dans des cas très précis. Par exemple, l'histoire de la catastrophe, la dernière catastrophe de l'avion, où j'ai entendu un gars qui disait « Je devais être sur ce vol-là. » Et puis enfin, oui, l'avion de A320 qui s'est écrasé en mer. Donc quelqu'un disait « Je devais être sur ce vol-là » et en fin de compte, il avait raté l'avion parce que... il n'y avait plus de place, un truc comme ça. Donc forcément, il a gueulé quand il n'y avait plus de place, un truc comme ça. Mais maintenant, il est très content d'être en vie. Lui, il s'en est rendu compte. Mais est-ce qu'on se rend toujours compte des trucs? C'est très difficile.
Il s'en est plus rendu compte qu'il y a autre chose.
Voilà. Là, il se rend compte très vite, mais ce n'est pas évident. Nous avons tous les jours des petites choses qui nous arrivent, mais nous ne nous en rendons pas compte. Et nous ne nous rendons pas compte de ce qui arrive, parce que justement, on n'est pas confronté, là, il y a tout un avion qui a disparu avec tout. Imaginez qu'il y avait un survivant. Il aurait pu dire, ah, mais j'aurais pu être dans cet avion et être un des survivants. Mais là, non. Là, on est sûr qu'il a vraiment échappé à la...
Ou pas,
je sais pas.
Je ne pense
pas.
Non. Donc,
oui, la ouais. Bon, le deuxième cas, donc, c'est quant à l'adolescence, c'était le fils de deux parents croyants. Nous avons craint qu'il ne les accablait par son arrogance et son infidélité. Ton Seigneur a décidé de leur donner en revanche un autre, plus vertueux, plus prompt à les vénérer. Dans le premier dans la première explication, il dit. J'ai voulu le rendre défectueux. C'est moi. J'ai voulu. Et dans le deuxième, il dit, nous avons craint. Dans le premier cas, il parle de lui-même, et dans le deuxième cas, il emploie le nous. Alors, les savants n'ont pas été d'accord, enfin, les exégètes du Coran ne sont pas d'accord sur l'explication du nous, enfin, l'appropriation à qui le retourner. Certains disent c'est à Dieu, nous c'est que Dieu, et d'autres ils disent nous c'est Dieu plus le Khodr, parce qu'ils partageaient la même connaissance des choses. Dieu a fait pas savoir au Khodr que cet enfant là allait être un mauvais enfant et qu'elle allait maltraiter ses parents, donc il partageait le secret de Dieu, enfin la connaissance du Reib, c'est-à-dire du futur, et donc le nous parlerait de. Mais dans les deux cas, que ce soit Dieu, que le nous désigne Dieu ou qu'il désigne les deux, il est clair que le Khodr connaissait ce qui allait se passer après. Si l'enfant avait continué à vivre, il est sûr, comme le dit le texte, qu'il allait être arrogant avec ses parents et qu'il allait les faire souffrir. Et donc le fait de le tuer, c'est en fait faire disparaître un mal pour le remplacer par un bien qui va être le nouvel enfant qu'ils vont avoir, qui va être plus apte à être un bon enfant. Et là, nous retrouvons devant la même situation que tout à l'heure. Des parents, on leur tue leur enfant. Quelle va être leur réaction? Ah ben voilà, douleur. Est-ce qu'ils vont comprendre que la mort de celui-là a pour but de les sauver de sa méchanceté? Ben non. Ils ne le sauront jamais. Ils ne le sauront jamais. Parce que, si on prend le texte, nous avons craint qu'il les accable par son arrogance et son infidélité. Donc c'est pas encore arrivé. Donc, si des parents perdent un enfant qui est mauvais, ils vont peut-être être accablés, mais on va se dire on est quand même peut-être bien débarrassé de lui. Mais là, il ne l'est pas encore. Donc, ils ont perdu un bon enfant pour eux, puisqu'il à cette époque-là, il n'était pas arrogant, il les faisait pas souffrir, sans se rendre compte qu'en fait, plus tard, il allait les faire souffrir. Et nous retrouvons, dans le même cas que les gens de la barque, Il ne voit que quoi?
Il voit que la mort de l'enfant.
Que l'instant. En fait, nous sommes les humains, notre gros problème, c'est que nous ne voyons que l'instant. Nous ne pouvons nous rendre compte que de l'instant. Dans l'instant, nous ne pouvons vivre la première sensation que nous avons. Si c'est une sensation de bonheur, on est heureux. Si c'est une sensation de douleur, on est malheureux. Oui.
Mais alors là, donc, tu disais que nous avons craint, c'est soit Dieu uniquement, soit Dieu plus le savant. Mmh. Parce que le savant a le don de lire dans la
Bible. Oui, puisqu'il le dit, il l'explique pourquoi.
Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais alors, on pourrait se dire, mais puisqu'il sait ce qui va se passer, est-ce qu'il ne peut pas essayer de corriger l'avenir?
Non.
En enseignant à l'enfant
non.
De
ce que parents. Nous avons, ce que j'ai déjà expliqué.
Parce que l'homme est capable de s'améliorer.
L'homme est capable de s'améliorer.
Avec l'éducation.
Oui.
Donc pourquoi est-ce que le savant, il ne choisit pas justement le bien?
La voie d'essayer de corriger l'enfant plutôt.
Ouais, parce que c'est la question que je me pose dans le texte de
verset. Ah, je vais répondre. C'est que nous revenons toujours à la même évidence, c'est que l'homme est libre dans son choix. Et donc, la connaissance de Dieu, c'est que cet enfant va choisir la mauvaise voie, et quelle que soit la manière dont on le... C'est une connaissance
Quelle que soit l'éducation, même quel si on que essaie de mettre le paquet voilà. sur lui en disant. Voilà.
Il y en a, tu peux les éduquer à fond comme voilà. tu veux et ça ne
voilà. rien. C'est ce que nous avons
mais
dit.
Mais ça, c'est pas l'avenir, donc. Mais nous, on ne sait pas de quoi on est dans ce type. Non, on est au
type. C'est ce que nous, ce que nous appelons, ce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est que vous prenez une famille de 4 enfants ou de 5 enfants. Avec les mêmes parents, le même comportement, la même éducation, vous aurez 5 individus différents. Les 5 individus sont dus à quoi ? À un choix. Chacun va choisir sa voie. Parce qu'en fin de compte, l'éducation, maintenant, à peu près en sociologie, en psychologie, en le truc, on dit que l'éducation de familiale et l'éducation sociale représentent à peu près 30% de l'individu et que les 70% sont dus
à. Sont
dus à l'inné ? Non, sont dus à ses choix. À ses choix.
Et par l'inné aussi, une part de caractère.
Mais le caractère se développe par le choix. C'est par les choix. Vous savez, par exemple, un truc tout à fait idiot, essayer d'apprendre à deux enfants du même âge, de le même niveau, l'un à lui apprendre à dire que oui, l'autre à lui apprendre à dire que non, eh ben vous verrez deux caractères qui vont complètement s'opposer. Parce que tout simplement, nos choix, enfin, le choix d'un certain moment va prédéterminer la décision, enfin, ce qui va en découler après. C'est pour ça que dans l'islam, je vous l'ai déjà répété, que tant qu'on n'a pas atteint la puberté et qu'on n'ait pas la conscience de la conséquence des choix, on n'est pas assujetti à la punition. Dieu ne peut pas punir quelqu'un qui n'est pas conscient de la conséquence. Quand vous devenez conscient de la conséquence de vos actes, vous êtes totalement responsable. Avant, vous êtes, du point de vue juridique, du moins irresponsable.
Donc tous les enfants meurent avant le paradis ?
Ils ne sont pas responsables.
Mais même les enfants, ils ne sont pas responsables.
Posez pas des questions. Il y a une divergence, je ne connais pas la réponse, j'ai jamais voulu répondre à cette question-là parce que il y a une divergence. Les textes que nous possédons désignent les enfants comme étant des gens qui ne peuvent pas être jugés. S'ils ne peuvent pas être jugés, il y a forcément, ils auront une place quelque part qui est, je suppose, ni le paradis, puisque le paradis est une récompense, ni l'enfer, puisque l'enfer est une punition.
Oui, si un enfant, par exemple, qui est pas musulman, qui a 4 ans, lui, c'est pas. C'est
oui,
pas,
mais c'est ce que. Voilà, c'est pour ça que le hadith du prophète, il dit tous les enfants naissent sur le fitra, c'est-à-dire ils naissent sur la bonne religion, sur la croyance, et c'est leurs parents qui en font des chrétiens ou des juifs. Et donc, s'ils sont nés sur la bonne religion, ils en droit forcément au paradis. D'accord ? Puisqu'ils ne sont pas. Non, il n'y a pas de jugement. En fait, il n'y a pas de jugement. Puisqu'ils ne peuvent pas être jugés, forcément, ils n'auront. Mais, d'un autre côté, si nous considérons le fait que le paradis est une récompense et que l'enfer est une punition, s'il n'y a pas de jugement, ils ne méritent ni l'un ni l'autre. Vous comprenez ?
Il y a un lieu à part.
Oui, il y a un lieu à part. Voilà, pour les enfants.
Il n'y a pas de lieu.
D'accord. Donc, les parents donc ne peuvent pas se rendre compte sur le fait quand on leur a tué un enfant, surtout que à ce moment-là, il n'était pas de ceux qu'on devait craindre, que l'enfant qu'ils viennent de perdre allait devenir méchant. Mais c'est une connaissance que Dieu a. Et donc, nous allons répondre à la question de tout à l'heure, c'est que, est-ce qu'il aurait pu se réformer ? Oui, il aurait pu se réformer, mais la connaissance divine du destin et de la prédestination savait qu'il allait faire le mauvais choix. Malgré tout, il allait faire les mauvais choix. C'est ce qu'on avait déjà expliqué, c'est-à-dire que Dieu a placé les règles qui régissent le comportement humain, le comportement animal, la création dans tout ce truc, et il connaît les déroulements des uns et des autres. Si nous ne connaissons pas la conséquence, pas toujours prévisible de ce que nous allons faire, Dieu, lui, la connaît parfaitement que quand il va, que telle conséquence va avoir, telle réaction va avoir telle conséquence sur les choses qui se passent autour de chez vous. C'est pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Si quelqu'un boit, il n'a fait qu'un choix personnel.
Ah ouais.
Mais s'il écrase quelqu'un sur la route, c'est une conséquence de son acte à lui. Il va être responsable de la mort de l'autre. Et les enfants qui vont en découler, enfin, ce qui va en découler, il portera la responsabilité de 36 000 choses qui étaient dues à un fait bien précis. Et donc on a un enchaînement qui n'est pas forcément perceptible par nous autres humains, parce que nous ne connaissons pas les déroulements des choses, nous n'avons pas l'étendue de la connaissance suffisante, alors que Dieu l'a l'étendue, et là, l'étendue, c'est va jusqu'à savoir que de toute façon, à un moment ou à un autre, cet enfant fera le choix d'être mauvais avec ses parents. Donc Dieu va enlever ce qu'il a donné, parce que l'enfant est un don de Dieu, pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Alors, le pourquoi on enlève un enfant pour le remplacer, est peut-être dans le verset. Je dis bien peut-être, parce que je n'ai pas la certitude, je n'ai pas encore la certitude de ça, mais il est dans le truc, parce qu'il dit... Quant à l'adolescent, c'était le fils de deux parents croyants. Donc, en fait, puisqu'ils sont croyants, ils ont une protection divine. D'accord ? Mais est-ce que, quelque part, ça a été injuste envers cet enfant qu'on a tué ? Le fait de le tuer. Question. Est-ce que... Je veux dire, l'enfant pourrait dire, mais pourquoi on m'a tué ? J'ai rien fait, puisqu'il a encore rien fait.
Avant qu'il fasse.
Donc du coup, il est sûr d'aller
au paradis. Avant qu'il fasse.
Donc en fait, la conséquence, c'est que l'enfant ira au paradis, puisqu'il est adolescent, il n'est pas encore responsable de ses actes. Ouais. Et donc, en fin de compte, on a sauvé les deux. On a sauvé les parents de la méchanceté de l'enfant, on a sauvé l'enfant de l'enfer, et on a donné aux parents un enfant qui va être meilleur. Qui va être... Donc, en fin de compte, le résultat est quelque chose de très positif sur un acte qui est totalement répréhensible au départ, qui est un meurtre.
Mais n'empêche que les parents ne reçoivent pas cette explication.
Non,
donc
personne.
Les parents sont dans une souffrance d'enfant.
Va rester.
Si on reste là, il est très heureux.
Enfin, non, on peut pas. On peut pas. Parce non, que comment veux-tu...
Grâce à ça, leur fils, il va aller au paradis. Ils vont aller en enfer et puis ils vont aller au paradis.
Mais ils peuvent pas s'en rendre compte. Parce que voilà. C'est des connaissances que... Oui, mais on peut pas. Parce qu'on ne peut pas avoir la connaissance.
Ouais.
La connaissance de trucs. Sauf, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, sauf si les parents sont positifs en disant si Dieu l'a pris, c'est qu'il y a une bonne raison. Et que c'est mieux ainsi. Et donc vont retrouver ce que tu disais toi, ils vont retrouver en se disant de toute façon notre enfant va aller au paradis.
Voilà.
Donc on va positiver une situation qui va être au départ atroce. Le mot est juste atroce. Si dans le premier cas ce n'est qu'une barre qui a été trouée, dans le deuxième cas la perte d'une personne, c'est quelque chose d'horrible. En plus un enfant. Je vous rappelle que la perte d'un enfant est supérieure à la perte des parents. Parce que la perte d'un enfant, elle n'est pas dans la suite logique.
Ouais.
On n'est pas censé perdre ses enfants avant de mourir. La logique veut qu'on meure avant ses enfants. Donc perdre ses... Oui, c'est... Mais c'est une logique qui est inscrite en nous. Qui est inscrite en nous. C'est pour ça que... Et la réflexion est à faire qui est assez intéressante. C'est que si vous prenez les animaux qui sont basiques, je parle des animaux basiques, c'est-à-dire que ceux qui avaient un cerveau très petit par rapport à la taille. Prenons par exemple les dinosaures. Les révélations scientifiques, les dernières révélations scientifiques sont très intéressantes parce que, comme pour les animaux de nos jours, quand une mère. Elle voit que son enfant est en danger, elle va courir à sa perte pour sauver son enfant, ce qui est la plupart du règne animal et même du règne humain, pour la plupart. Mais, dès que l'enfant, enfin, le bébé est mort, il se transforme en quoi ?
En nourriture.
En nourriture. Elle le mange.
Son bébé,
elle mange. Ce qui est le cas des chats, par exemple. Les chats, quand ils ont un bébé qui est mort-né, Elles le mangent. Ouais, la plupart.
C'est vrai, ils sont pas carnivores, les chats, non?
Si, ils sont pas carnivores, ils sont pas herbivores les chats. C'est pas parce qu'elles mangent des croquettes qu'ils sont pas carnivores.
C'est vrai qu'ils buvaient du lait, c'est comme ça.
Donc, on disait que. Donc, ils se transforment en nourriture. Et alors, la nourriture, c'est quoi? Nous voyons que l'acte atroce de manger son enfant. Mais en fait, c'est quoi? C'est prendre des forces pour avoir une nouvelle progéniture. Et donc là, nous avons une réaction tout à fait binaire, c'est tout ou rien. L'enfant est vivant, elle va le protéger jusqu'à sa mort, mais une fois qu'il est mort, elle va se transformer en nourriture pour pouvoir progénérer, recréer un truc. L'homme n'a pas cette capacité-là, parce que entre le vivant et le mort, l'homme, il a quoi? Il a sa conscience et sa perception des choses. C'est que nous pouvons nous projeter dans des possibilité que l'animal avec un cerveau binaire ne peut pas imaginer. Pour lui, ça existe ou ça n'existe pas. Supposons que ça existe, l'animal
ne croit pas en Dieu.
Ça n'a rien à voir de croire en Dieu ou pas croire en Dieu.
Non, mais je veux dire, c'est des créatures de Dieu.
C'est des créatures de Dieu, ils obéissent à Dieu, mais ils n'ont pas la conscience de ce que nous. Ils n'ont pas la conscience du bien et du mal. Ils ont une propre. Oui, oui, mais ils n'ont pas la conscience du bien. Tout ce qui est sur la création en strict bénissent Dieu, donc ils le bénissent et qu'ils ont quelque part la connaissance de la création, mais ils n'ont pas cette faculté de la perception. Nous avons la perception avec en plus la projection, c'est à dire que nous pouvons supposer des choses qui n'existent pas, et cette supposition que les choses que nous pouvons supposer, va créer un monde parallèle au nôtre, à notre réalité, ce qu'on appelle l'inconscient. L'inconscient est une projection d'un monde qui n'existe absolument pas, puisque c'est notre seule imagination, notre seule perception qui le crée. Et un des troubles les plus connus des trucs, c'est de confondre les deux, la réalité avec la perception. Nous retrouvons ça beaucoup chez les gens, par exemple chez les croyants. On trouve ceux qui croient à la sorcellerie, c'était à la magie noire, et tout comme ça, que la magie noire a des conséquences directes sur la réalité. C'est-à-dire que quelqu'un va te jeter un sort et ça va bouleverser totalement ta vie. Il est évident que je jette un sort, si je veux, mais est-ce que ce qui va arriver, ça découle de ce que j'ai fait moi? Non, on n'a aucune réalité, on n'a pas la perception. En fait, on va supposer que le sort qu'on a été jeté va être la conséquence du mauvais sort qui a été jeté. Et donc, la personne qui se croit qu'elle a mauvais œil ou quoi que ce soit, tout ce qui va lui arriver de mal va être à cause de ça. Mais pourquoi? Parce que ça déculpabilise celui à qui les choses arrivent. Et donc, de ce fait-là, il n'est plus dans la même situation que ce qu'on avait dit du bon côté, c'est-à-dire qui positive tout. Si je me casse une jambe, je dis ah, alhamdoulilah, je ne me suis pas tué. Il va se dire, si je me casse une jambe, ah, c'est l'autre qui m'a jeté un mauvais sort, voilà. Et donc je restais toujours dans le côté négatif. Voilà, dans le côté négatif. Si je dis alhamdoulilah, je ne me suis pas tué, je me suis sorti à bon compte, je ne peux pas imaginer que quelqu'un ait pu provoquer l'accident où c'est moi qui suis tombé.
Ces trucs de sorcellerie, ça arrive vraiment à ceux qui ont peur de ça.
Mais ils ont peur parce qu'ils se créent un imaginaire, voilà. Et dans lequel ils se projettent dans l'imaginaire. Et là, tout ce qu'on dit, tout ce qui va arriver là, ce que tu précisais bien, les personnes à qui c'est arrivé ne le savent pas. Enfin, du moins, le texte ne le dit pas. Et donc, on est censé que même, de toute façon, même s'ils le savaient, ils l'auraient dit. Est-ce qu'ils seront... Ils ont été convaincus que c'est vrai? Non. Ben non. Puisque dans le premier cas, à la limite, ils auraient pu, mais dans le deuxième cas, on le dit, on a tué votre fils puisqu'il allait être méchant avec vous. Il va se dire, non, mais pourquoi vous avez tué mon fils? Moi, j'aurais pu l'éduquer. J'aurais pu le changer avec mon âme. On peut créer plusieurs schémas. Aucun schéma ne correspond à la réalité, parce que la réalité, seul Dieu la connaissait, c'est-à-dire que cet enfant allait faire le mauvais choix à un certain moment, et que ce mauvais choix était irrémédiable, et que seule la disparition de cet enfant-là pouvait, d'une certaine manière, entre guillemets, compenser le fait que les parents étaient croyants et qu'il fallait les protéger.
En fait, il faut toujours dire que c'est un mal pour un bien, en fait.
Oui, c'est une expression qui peut... Un mal provisoire.
Ouais, ouais, un mal provisoire pour un bien.
Sur le moment, sur le moment.
Oui, ou un mal définitif, parce que perdre un enfant, on doit le traîner pendant un moment.
Oui, mais... je vous ai toujours dit que une des capacités, c'est peut-être pour ça, les savants disent, c'est pour ça qu'on dit, qu'on appelle l'homme en arabe insan, parce qu'il a la capacité d'oublier. Insan vient de nesyan, l'oubli, et qu'on a cette capacité justement d'oublier les choses, de laisser décompter à un certain moment. Mais on les oublie pas, on reste toujours dans le côté négatif. La perte d'un enfant, moi j'ai vu des gens qui ont perdu des enfants, qui ont traîné ça pendant 40, 50, 60 ans. D'accord ? Et d'autres qui ont perdu un enfant, je veux dire, au bout de 2 ans, ils n'en souffraient plus du tout, ou même au bout de 5-6 mois, ils n'en souffraient plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont assimilé, on dit, on fait le deuil. On fait le deuil, c'est quoi ? C'est accepter la séparation. Vous savez, la conception est une conception générale. Dans le cas de la mort, ce qui fait mal, ce qui fait peur à l'être humain, c'est quoi ? Non ! Parce qu'on peut être séparé des gens qu'on aime. S'il habite dans une autre ville, on le voit jamais.
Non, ça peut être de plus revoir. En fait,
non.
Hmm? Le fait que ce soit définitif.
Mais quand on quitte quelqu'un, on n'est pas censé savoir qu'on va le revoir. Voilà. Ne pas savoir ce qui lui arrive à lui. Quand on veut le savoir. C'est-à-dire, imaginez, vous avez votre frère qui part habiter, en Chine. Tu ne sais pas ce qui lui arrive du tout.
Quand même, c'est vrai. Je me dirais qu'est-ce qu'il fout là-bas,
Tu ne sais pas ce qui lui arrive du tout, mais tu peux toujours te dire que si je prends un coup de téléphone et je l'appelle pour savoir ce qui se passe, et je le saurai. Mais le fait que tu ne puisses jamais, tu sais que ton frère il est parti, mais tu ne sais pas où il est. C'est inquiétant. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas le savoir. Je ne peux pas le contacter, je ne peux pas le savoir. La mort, elle est proche de ça, mais avec la certitude que tu ne le reverras jamais. Alors que le frère qui est parti, qu'on ne sait rien de ce qui est arrivé, il va peut-être revenir un jour. C'est pour ça que les gens qui meurent, par exemple, une des difficultés quand on est psychologue, c'est d'obliger les gens à faire le deuil. À faire le deuil, de dire quoi ? C'est qu'il ne reviendra jamais. Et les gens... Par exemple, la dernière catastrophe d'avion là, qui est arrivée, ils vont se dire, mais il est peut-être survécu. Il y a des gens qui vont rester sur 30, 50 ans comme ça en se disant, il est peut-être sur une île tout seul. Ce qui est quasiment inimaginable, mais il va toujours chercher à trouver une parade. Et donc, faire le deuil, c'est d'accepter que la séparation soit définitive en fait. C'est ça qui est faire le deuil. Et accepter de faire qu'elle soit définitive, si on sait, on peut pas. La personne qui, au bout de 3 mois, sait que son enfant, il ne reviendra plus, et qu'elle se dit, c'est un enfant, il est au paradis, et que j'en suis heureuse pour lui, elle a fait le deuil. Donc elle peut passer à autre chose. D'accord ? Donc on retrouve un peu cette idée-là. Alors, pour la troisième chose, c'est un peu plus complexe, un peu plus difficile à comprendre.
Oui. Mais ça fait que si par exemple une famille elle se retrouvera jamais donc au paradis.
Pardon ?
Une famille elle se retrouvera jamais au paradis.
Si.
Mais s'il y a un parti pour les enfants.
Pardon ?
Non mais vous avez dit que les enfants, si par exemple ils meurent jeunes, ils sont nés au paradis, non au père.
Non mais pour les enfants.
Non, j'ai pas dit qu'ils étaient nés en paradis. C'était une chose que je me suis toujours posé la question. J'ai pas la réponse avec une certitude. La plupart, étant donné qu'il n'y a que paradis et enfer, et forcément ils ne seront pas en enfer, ils seront au paradis. Mais je me dis que le paradis est une récompense. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas redevable d'un jugement mérite une récompense? Mais on peut mettre ça à la clémence de Dieu. Disons qu'il a de toute façon décidé que tous les enfants iraient au paradis. Donc c'est pas une réponse, c'est une interrogation. L'interrogation réside sur le fait qu'on n'a pas de texte. Mais qu'on peut supposer, c'est ce que je vous ai dit, le hadith a dit que les enfants naissent sur la bonne religion et que donc s'ils meurent, ils meurent sur la bonne religion, donc ils ont droit au paradis.
Et j'aurais entendu dire une fois que les gens qui se font tuer, ils vont au paradis.
Ouais, non, ça dépend de leurs actes. Le fait de mériter le paradis de l'enfer, c'est les actes qui comptent. Ah, c'est pas les circonstances.
Mais les martyrs.
Les martyrs, il faut qu'ils soient croyants. Il faut qu'ils soient croyants.
Ouais, parce que
les martyrs chrétiens ne sont pas les martyrs musulmans. Si c'était des chrétiens qui s'affrontaient avec des musulmans, tous les deux morts vont s'appeler martyrs. Mais on va dire, ah bah, puisqu'ils sont tous les deux martyrs, ils sont tous les deux au paradis. Non. C'est nos actes qui nous emmènent au paradis.
C'est une bonne croyance de dire, en parlant de tout ce qui se passe, par exemple à la Palestine ou quoi, je vais me faire exposer pour ma cause et ça va m'amener au paradis. Ou c'est n'importe quoi, ça va m'amener avec tout ça, ça m'a mis au paradis.
C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus simple. Je vous ai dit, l'entrée du paradis dépend des actes qui ont été faits. Le musulman est jugé sur ses actes.
Oui, il a fait ça pour sauver son...
Il est jugé sur ses actes et même sur les actes, sur l'intention de l'acte. Nir. C'est l'intention qui compte. Donc, cet individu-là, nous le jugeons comme étant... On lui souhaite, on ne le juge pas. Normalement, on ne dit pas que quelqu'un est un martyr. On lui souhaite d'être martyr. Parce que nous ne le savons pas, parce que nous ne sommes pas juges. On dit à quelqu'un qui meurt sur le champ de bataille, nous le souhaitons pour lui qu'il soit martyr. Si l'individu qui est mort en se faisant exposer était une décision avec une intention pure de protéger sa vie, de protéger sa patrie, de protéger sa religion, nous ne pouvons que lui souhaiter d'être un martyr. Mais nous n'en avons pas la constitution. Par contre, est considéré comme un martyr, tout croyant, qui meurt dans un bombardement. Parce que lui, il n'a pas choisi de mourir. C'est pour ça qu'on dit que le brûler, le noyer, le bombarder, celui qui est écrasé sur la terre, sont des martyrs. Ça, on a la certitude, on a des hadiths sûrs là-dessus. Pourquoi ? Ils n'ont pas fait le choix. Parce que quelqu'un qui fait le choix du suicide, qui est le suicide, est un acte condamné par la religion.
Ouais,
condamné par la... Mais quand c'est la dernière possibilité de se défendre...
C'est l'intention en fait, parce
que l'intention. Le hadith du prophète, il dit Rabba qatil bayna as-safayn, Allahu a'lamu bi niyyatihim. Alors il dit Rabba qatil, c'est quelqu'un qui meurt entre les deux rangées de combattants, celui des musulmans et celui des chrétiens. Il meurt entre les deux rangées. Donc vous avez les combattants mécréants, les combattants musulmans, et lui il est entre les deux. Il est où? Il se situe où dans le combat? Oui, au milieu. Et donc il est en avance des musulmans. Les musulmans sont derrière lui. Non, mais il combat pas avec les chrétiens.
Ah bon,
non, Barkatil, on parle de croyants musulmans. Il est plus que la première ligne, il est tout seul. Donc il est entre les deux là. Il est entre les deux. Donc il est en avance des autres musulmans. Donc il est parti. On peut pas imaginer qu'il s'est retrouvé là par hasard. Il est forcément avancé par rapport au rang des musulmans. Il dit que celui-là, Dieu seul sait quelle était son intention. Alors que pour nous, c'est l'homme le plus courageux. S'il meurt, c'est forcément lui le martyr. C'est l'homme le plus courageux. Il s'est avancé par rapport aux autres. Donc, ce que nous avons comme perception, nous, c'est pas sur ça qu'il sera jugé. Dieu le jugera sur son intention. Si cet homme-là a été avancé pour montrer qu'il était courageux, il n'aura pas la récompense du martyr.
Par contre, il a fait ça pour attaquer.
C'est pour ça que le hadith du prophète, un homme vient lui disant Inna rajlu la yuqatilu hamiya wa yuqatilu lussum'ati wa yuqatilu li yura makana. Ayun minhum fi qatala fi sabilillah. Alors, l'homme vient lui poser la question au prophète, il lui dit l'un de nous, un des gens qui meurt sur le combat. Alors ici trois cas. Le premier, celui qui paye Hamiya, c'est-à-dire qui de le tempérament chaud, on dirait maintenant quelqu'un qui est surexcité, tu vois, qui est survolté. Le deuxième, il meurt pour montrer qu'il est courageux. Non. Et le troisième meurt pour montrer qu'il veut se défendre. Qui meurt pour avoir le butin. Ça arrive, il est parti pour avoir le butin. Lequel des trois meurt pour Dieu? Alors le prophète il dit Man mata liya'li kalimatullah fa dhalika fi sabilillah. Seul celui qui meurt pour que la loi de Dieu soit la plus haute, la parole de Dieu soit la plus haute, celui-là le seul meurt pour Dieu. Donc les trois, aucun, puisque le premier c'est par énervement, le deuxième c'est pour qu'on montre qu'il est courageux, et le troisième c'est pour avoir le butin. Donc les trois, et pourtant nous jugerons qu'ils sont martyrs, parce que l'apparence montre qu'ils sont des martyrs. Donc pour revenir à ce que tu disais, Dieu va juger les gens sur leur intention, sur leurs actes évidemment, parce que c'est l'apparence, mais surtout sur le fondement de l'acte qui est l'intention.
Oui, alors justement, admettons quelqu'un qui s'est explosé en plein milieu d'un quartier populaire ou sur un marché où il y a des femmes, des enfants, devant une école, même si son intention à la base c'était, de montrer la grandeur de Dieu,
Non, c'est pas montrer la grandeur de Dieu. On a dit que ce qui compte, c'est l'intention. Un des droits fondamentaux de l'être humain, qui est reconnu, on ne parle pas de religion, qui sont reconnus parmi les lois humaines, c'est le droit de se défendre. Le premier. Le droit de se défendre quand personne ne vous défend est un droit universellement reconnu. C'est-à-dire, en France, si vous voulez faire vous défendre tout seul, vous êtes puni par la loi. Pourquoi ? Non, mais pourquoi on est puni par la loi?
C'est
vrai. Non, mais c'est quoi la règle?
On ne peut pas faire justice.
Non, c'est pas ça. La règle, c'est que l'État vous défend. C'est ça la règle.
Normalement, oui.
C'est l'État vous défend. La police est là pour vous défendre. La gendarmerie est là pour vous défendre. Il y a l'État qui est structuré. Quand vous faites justice vous-même, vous êtes puni. Parce que vous contredisez à la truc, c'est que vous êtes sous la protection de l'État. Et du moment, donc, tous vos actes seront illégaux, puisque vous devez réclamer. Maintenant, je suis en face d'un voleur chez moi avec un revolver que si je tire pas, il me tue. Ou j'en ai presque la conviction. Ça s'appelle comment en France? Légitime défense. C'est quoi la légitime défense? C'est qu'on est toujours dans le cadre de la protection. L'État ne peut pas être se placer à ce moment-là, bien précis, entre lui et moi. Et donc, j'ai l'État à légitimer le fait que je puisse me défendre, moi, en se basant sur quelle règle?
Si c'est pas lui, c'est moi.
Non, en se basant sur la règle que chacun a le droit de défendre sa vie. C'est les deux règles de base. L'État est là pour me défendre et chacun a le droit de défendre sa vie.
Ouais, mais dans ce cas-là...
Attends, on termine d'abord. Sinon, on s'en sortira pas. Si un des deux éléments est déficient, on retrouve toujours l'élément principal, c'est que l'individu doit se défendre tout seul. Dans le premier cas, on dit déficient, l'État n'est pas présent. Il n'y a pas d'État qui peut me protéger. Donc, j'ai l'obligation... J'ai le devoir de me protéger tout seul, puisqu'il n'y a personne qui peut me protéger. C'est le cas, par exemple, des Palestiniens. D'accord? C'est le cas de toute personne qui est dans un état de guerre. Ou dans un état d'insécurité totale. Pas forcément de guerre, mais d'insécurité totale. Le deuxième cas, c'est que l'oppresseur, c'est l'État. C'est-à-dire, celui qui doit me protéger, c'est celui qui m'oppresse. Et alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? J'ai l'obligation de me défendre contre l'État, d'attaquer l'État. ce qu'on appelle les révolutions. Et c'est le cas des Palestiniens actuellement, puisqu'ils sont sous domination de celui qui les oppresse, puisqu'ils sont colonisés. Donc dans les deux cas, cet individu-là a le devoir, enfin, le devoir, l'obligation, ou la possibilité de se défendre tout seul, sans tenir compte des règles qui régissent l'humanité. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui vous défend, vous avez l'obligation de vous mettre sous sa défense, et dans certains cas, vous vous défendez tout seul parce que l'État est déficient provisoirement, parce qu'il ne peut pas être présent partout. Maintenant, le problème réside dans le fait, c'est dans une situation bien donnée, la réaction à adopter. Il est évident que celui qui est en face de quelqu'un qui veut lui tirer dessus et qui sont tous les deux armés et qui le tue, n'est pas la même que celui qui met une ceinture d'explosifs pour aller se faire exploser dans une population qui apparemment ne l'a pas attaqué. Tout réside dans le fait de pouvoir savoir comment cet individu-là percevait le danger.
Ouais, c'est l'intention toujours pareil.
C'est la perception de l'individu du danger qui va expliquer son acte. Celui qui est en face de quelqu'un de revolver, il est évident que... Mais il peut dire, je n'ai pas la certitude qu'il va tirer. C'est juste pour m'intimider. Et donc je ne vais pas tirer. Ce qui arrive dans la plupart des cas. La plupart des cas. Mais dans très peu de cas, le gars quand même tire.
Bon.
Donc on est dans une situation où l'individu a estimé que préserver peut-être la vie de l'autre était plus probable que de mieux que d'essayer de défendre alors qu'il n'estimait pas. Mais celui qui vit sous domination, donc qui est opprimé continuellement, est-ce que il a tout réside dans le fait de savoir s'il y a une perspective après ce moment. C'est quand je suis en face de quelqu'un qui est avec un revolver, est-ce que après cette situation, je vais être vivant ou je vais être mort? Dans le cas de ces gens-là, c'est que ces gens-là ont déjà estimé qu'ils sont morts depuis longtemps. Et c'est ça l'acte.
Mais il y a différents endroits pour se faire exploser. Ouais. Et se faire exploser, à mon avis, devant une école ou sur un marché, c'est aussi toucher l'ennemi à un endroit qui lui fait mal.
Bien sûr.
Particulièrement mal.
Bien sûr, c'est particulièrement.
Mais
c'est le but.
Oui, je suis bien d'accord.
C'est le but.
Et le fait qu'ils soient désespérés, ces gens-là, je suis tout à fait d'accord. Mais la question, justement, c'est est-ce que ces gens-là, au niveau de leur intention, parce que l'intention, c'est de faire mal à l'autre,
de se défendre. Oui, de se défendre. C'est la défense. Si tu estimes que tu veux être dans un état où vous êtes opprimé, que vous n'avez aucune chance de perspective de vie, je vous signale, entre guillemets, le cas palestinien est un cas unique dans le monde. Et il n'est pas dans le truc parce que c'est des gens qui ont perdu leur terre depuis 60 ans et qui ne peuvent pas imaginer donc 60 ans où ils vont être. Probablement, ils seront dans le même état où ils sont aujourd'hui. Donc il n'y a pas de perspective. Et attention, le cas palestinien est encore plus truc parce qu'ils ne sont pas seulement opprimés par les Israéliens, ils sont opprimés par tous les gens où ils sont. C'est-à-dire ils sont encore plus opprimés au Liban, où il y a une grande diaspora truc, en Jordanie qu'en Israël. Un Palestinien au Liban, il est là depuis 60 ans. Mais il n'a pas de carte d'identité, il est toujours réfugié, il n'a pas le droit de travailler, il n'a pas le droit de vivre en dehors du camp de réfugiés, il n'a pas le droit à posséder de la terre, il est plus opprimé qu'en Palestine. Il faut pas croire. Hein. C'est pas parce qu'il est dans un pays arabe musulman qu'il est heureux. Non, ils sont opprimés partout. Ces gens-là, quand ils sont dans un état, je dirais, d'extrême, ils ont perdu tout espoir qu'un lendemain puisse être truc. Je dirais, moi, honnêtement, je dis, de quel droit on peut se mettre à leur place et dire qu'ils n'avaient pas le droit.
Pas du tout mon propos. Mon propos, c'est pas de me mettre à de les juger en disant c'est pas bien ce qu'ils font, etc. Je pense que c'est vraiment l'expression d'un désespoir tellement absolu que.
Oui, mais le problème.
J'ai aussi parlé de l'intention tout à l'heure.
Oui, moi, mais le problème.
Ces gens-là, bon, nous, en tant qu'humains, on ne peut pas juger on vit dans un confort tellement supérieur au leur que, voilà. Mais est-ce que ces gens-là sont considérés comme des martyrs de la religion?
Non, enfin, je te dis, on doit leur souhaiter le martyr, c'est tout, mais on ne peut pas être sûr qu'ils... Mais on revient toujours à ce texte qui est très fondateur, c'est que nous avons qu'à la perception de l'acte, de le moment où il est fait. Nous ne savons pas ce qu'il va en découler. Le problème, je peux reposer la question pour la sortir du cadre de l'actualité, en se disant, est-ce que quelqu'un qui savait ce que Hitler avait fait, en 1920, aurait eu le droit de le tuer?
Que Hitler allait faire?
Bah oui, ah, avec la...
Quelqu'un avait vu l'avenir?
Voilà, quelqu'un de nos jours, avec la connaissance de ce que Hitler allait faire, ou de ce que Staline allait faire, est-ce que, en le connaissant quand il était adolescent, aurait eu le droit de le tuer?
Moi, je l'aurais pas tué, moi, Hitler.
Faut pas dire les choses. Est-ce qu'il aurait eu le droit? Du point de vue humain, non. Mais est-ce que du point de vue historique, non? En se disant, si je tue Hitler, je vais protéger 20 millions de morts, et en disant Staline, je vais en protéger 40, est-ce que c'était pas mieux de tuer une personne pour en protéger 20 millions?
Je sais pas, parce que...
Ah non, mais c'est une question, il n'y a pas de réponse.
Non, mais c'est pas, en vrai,
il n'y a pas de réponse.
Pas sur la colonisation des Juifs et tout, mais ça veut dire que si...
Mais il n'y a pas de réponse à ça. Non, mais il n'y a pas de réponse. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est pour ça que je vous ai dit, on revient toujours à la base, c'est que Dieu va juger sur l'intention. Pas sur la conséquence des actes, ni sur l'acte lui-même, va-tu juger sur l'intention de tout. C'est mon droit, je prends n'importe quelqu'un qui s'est exposé, sa raison, sa seule raison, c'était, ils ont tué mon oncle, ma tante.
Vengeance.
C'est un droit. La vengeance est un droit qui est reconnu. Puisque au moment, si l'État ne peut pas te venger, donc ne peut pas juger les coupables, tu as le droit de prendre justice toi-même, puisqu'on ne te donne pas le droit. Donc, ça restera toujours une question insoluble. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans l'instant. Là, on est dans les trois cas, dans l'instant de l'acte. Les conséquences qu'il cite, lui, dans le premier cas du bateau, c'est à courte durée. Dans le deuxième cas, ça va mettre des années, hein, 16 ans, 20 ans, pour voir les bienfaits que ça va porter. Et entre-temps, il y a la souffrance d'avoir eu un enfant qui est tué. Dans le dernier cas, c'est beaucoup, beaucoup, encore beaucoup plus loin. D'accord? Donc nous nous retrouvons toujours... Notre perspective, elle est basée sur l'instant, et que l'instant n'est pas significatif de la réalité des choses. Nous sommes toujours dans le reflet de la réalité, et non pas dans la réalité comme elle est.
En revenant à ce qu'il faut exposer, il arrive qu'il faut exposer, et à côté des musulmans, il y a des musulmans qui meurent.
Mais c'est pas une question
mais
de...
Mais on est considéré dans l'islam, on n'a pas le droit d'enlever une vie à un musulman.
Oui, non, mais je te dis, le problème, c'est que nous ne connaissons pas la réalité de leur acte, donc nous ne pouvons que... Il est évident que certaines personnes vont dire, comme tu disais tout à l'heure, les gens qui se faisaient exposer en Algérie, ceux qui sont exposés actuellement en Irak pour tuer des chiites, parce que pour eux c'est des mécréants, est-ce que les uns vont les considérer comme des martyrs et les autres comme des meurtriers et tout? C'est des perceptions de l'instant. Je veux dire, moi je ne prononcerai jamais sur un truc, mais je dis toujours que dans des cas entre guillemets politiques, c'est-à-dire la Palestine, l'Irak, les Tamouls, je vous signale que ceux qui ont inventé les suicides par bombe, c'est les Tamouls, c'est pas du tout les Palestiniens. Les Tamouls, c'est en Sri Lanka, c'est eux qui ont inventé le truc, puisqu'ils en ont commis plus de 750. Donc en 10 ans, ils en ont commis plus de 750, il n'y a pas eu 750 à explosion dans tout le Proche-Orient. Toute explosion confondue. C'est eux qui ont inventé le système d'aller se faire exploser avec des ceintures d'explosifs. Donc, vous voyez que ça, c'est une réalité qui est complètement occultée par le truc, parce que le problème des Tamouls, ça ne nous regarde absolument pas, c'est pas notre guerre. C'est tellement loin. Donc, je dirais que dans ces cas-là, il est très difficile, je dirais même pas seulement difficile, mais il est complètement impossible que nous, à des kilomètres, des centaines de kilomètres, ne connaissant pas la réalité des choses, de porter un jugement sur ces gens-là.
Non, mais moi, en fait, ce qui me choque, comme tu dis, il n'y en a pas tant que ça qui sont expulsés.
Non, non.
Du moins,
il n'y en a pas.
Mais c'est tellement monté en épingle.
Oui, c'est ça. Tu dis, c'est 10 ans, ouais. En 10 ans, les Tamouls, il y a eu 750 voilà. Suicides. On n'en a jamais entendu parler. Il y en a eu à peu près une trentaine en Palestine. C'est devenu voilà, la. On dirait l'impression qu'il y en a tous les jours une vingtaine qui sont exposés.
Et comme tu disais tout à l'heure, tu utilisais le mot politique. C'est toujours présenté, soit par les journalistes, soit par les gens qui se font exposer eux-mêmes parce qu'ils ont laissé soit une cassette vidéo, soit un papier, c'est présenté comme un fait religieux.
Mais pourquoi? Parce que le fait religieux, c'est ce qui réconforte. Je vais à la mort. Il est évident que si je vais à la mort. Si j'ai en plus la perspective d'aller au paradis, je vais m'accrocher à ce qui va m'amener à quelque chose de bien. Ces gens-là, ils sont peut-être que des meurtriers, j'en sais rien. Mais il est évident qu'ils ne seraient pas allés à la mort comme ça, en sachant qu'ils allaient être considérés par Allah comme étant des meurtriers. Donc le fait de m'accrocher à la perspective... Vous savez, j'ai souvent cette discussion avec des gens à propos de la Palestine et j'ai entendu deux cas, je vais vous les citer, comme ça vous comprendrez mieux. Une personne qui m'avait dit, ces gens-là, ils vont se suicider parce que, en fait, le Hamas donne 10 000 dollars à la famille. J'ai dit, bon, c'est bon, je te donne 10 000 dollars, on va te faire exploser. C'est vrai que le Hamas donne de l'argent à la famille de ceux qui sont exposés. Mais c'est pas... Est-ce que, vraiment, ils ont été payés pour aller se faire tuer? Je ne pense pas que quelqu'un lui donnerait 10 000 dollars, il aurait se faire tuer. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est l'histoire des 70 vierges qui se font, qui reçoivent au paradis. Je dirais, à la limite, si je peux avoir 70 vierges sur Terre, je ne sais pas pourquoi je vais attendre... Vous savez que le musulman peut épouser autant de femmes qu'il veut, donc il aurait pu avoir les 70 vierges sur terre et une femme de...
Femme,
oui, mais il peut divorcer et épouser une autre. Hein. Il peut épouser autant qu'il veut. Il divorce le lendemain de son mariage, il aura 70 vierges. D'accord? Donc, je veux dire, les uns vont s'accrocher au désir d'aller au paradis, avec cette perspective, parce qu'ils étaient la conviction qu'ils allaient être des meurtriers, ils n'y iraient jamais, et les autres vont s'accrocher avec cette idée qu'on les paye pour se faire tuer, ou parce que c'est une idée absurde d'avoir 70 vierges. Alors on dit, si c'est 70 vierges, pourquoi il y a des femmes qui ont été aussi des martyrs, qui ont prétendu à leur truc, elles ne vont pas avoir 70 maris là-haut. Donc, on s'accroche à ce qui nous rassure. Quand l'idée que, en fait, ces gens-là, ils combattent pour leur survie, est tellement effrayante, parce que quand on se dit que ces gens-là combattent pour leur survie, on se dit, mais attendez, eux, ils n'ont pas été chassés. Oui, mais ils sont nés dans un camp. C'est pire que ceux qui ont été chassés. Parce que eux, leur vie, ils n'ont connu qu'une seule chose, c'est le camp. Et en fin de compte, c'est comme si tu disais, quelqu'un est né en prison. Ses parents ont fait quelque chose, il est né en prison et il sait que de toute façon, il y a une loi qui a été votée par l'État, ceux qui sont nés en prison mourront en prison. Quelle va être son idée dans sa vie? Il va tout faire, quitte à perdre la vie pour avoir une chance de sortir de cette prison. Parce qu'il n'est pas responsable de cette situation-là. C'est, la perspective est différente. Nous, nous jugeons dans un... C'est pour ça que quand on parle de la Palestine, les gens disent toujours « Ah, mais vous savez, c'est très compliqué. » Non. Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué? C'est la situation actuelle, avec des prises de position de droite ou gauche. On est pour, on est contre, on soutient, on donne des solutions, on veut faire ceci, on veut faire cela. Revenons à l'état de base. Redonnons les droits de chacun. Quand on redonne les droits de chacun, après on peut discuter. Je t'ai pris ta voiture, tu me combats pour ça, et la première des décisions, on va dire, mais redonner la voiture du monsieur, après on va rentrer dans des compensations, des trucs comme ça. Oui, mais lui, il a cassé le vélo de mon fils. Ben, il y a plusieurs chaînons, et on va retrouver petit à petit, résoudre. Mais il est évident qu'à un moment ou un autre, on va arriver à quoi? À un compromis général, comme de toutes les guerres, on va s'asseoir autour d'une table, on va faire un compromis général. tu vas céder une partie, je vais céder une partie, tu vas céder une autre partie, je vais céder une autre partie. Et on va trouver un compromis pour arriver. Mais tant que ça, ce n'est pas rentré dans la perspective générale, c'est-à-dire de la vision de tout le monde, il ne peut pas y avoir de solution. Et donc tous les extrêmes ou les extrémistes vont se justifier par X raisons ou par X raisons. Moi, je veux dire, tout simplement, prenons avec un peu le temps d'écart. Il est évident que, si on prend le cas de l'Algérie, par exemple, est-ce que les Algériens avaient le droit de se soulever contre la domination des Français? Il y a très peu de gens qui vont vous dire non maintenant. Alors on va vous dire oui, mais on n'était pas obligé d'arriver au meurtre et au massacre qu'il y a eu. Mais est-ce qu'on avait demandé aux Français de quitter le territoire, ils seraient partis de eux-mêmes?
Non.
Ben non. Est-ce que l'OAS avait raison d'exister? Les gens vont dire ben oui, parce que ces gens-là, ils étaient nés en Algérie. Bon, ils sont peut-être Français, mais ils sont nés depuis 1830. Ils étaient là au 1850, ils sont arrivés, ils sont nés, ils sont devenus des vrais Algériens. Alors on se dit, mais pourquoi alors personne leur a demandé de partir? Il y a 36 000 questions, il y a 36 000 réponses, il y a 36 000 réalités, et chaque réalité est différente. Le problème, on est arrivé à cette situation, pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas mis autour d'une table pour discuter, pour trouver des solutions à l'amiable. Et pour trouver des solutions à l'amiable, il faut des bonnes volontés. Nous sommes dans une situation où il n'y a aucune bonne volonté de nulle part. Donc on ne peut pas avoir de solution parce qu'il n'y a pas de bonne volonté, c'est tout.
Voilà, moi je pense que
t'as... Et donc tout peut se justifier. Tout peut se justifier. Je veux dire, on peut se justifier. Ça m'a fait rigoler la dernière fois, parce que j'ai écouté, il y avait une manifestation, il n'y avait que 200 personnes, mais qui manifestaient contre Obama, parce qu'il a demandé l'arrêt des colonisations en Cisjordanie. Et alors leur slogan c'était Barack Hussein Obama. En utilisant le mot Hussein pour montrer qu'il était quand même quelque part, il devait être musulman, parce que sinon il n'aurait jamais porté un nom arabe. Et vous voyez, on peut retrouver des justificatifs dans tous les... Mais on est toujours dans l'instant T du moment. Bien, aujourd'hui, dans quelques années, on va trouver des situations qu'on a vécues qui étaient tout à fait, réelles. Qui a une valeur dans le moment complètement absurde. Attends, notre vision du communisme aujourd'hui n'est pas celle qu'on avait dans les années 70. Les années 70, je vous rappelle que dès qu'il y avait une révolution qui éclatait quelque part, une contestation commune, elle était forcément d'audience communiste ou socialiste. Parce que le communisme, le socialisme représentait l'idée de la libération de l'individu. Et que maintenant, quand on regarde le communisme, on ne voit... je suis sûr qu'il n'y a personne qui peut prétendre que le communisme a des côtés positifs. Il y a très peu qui... Mais on peut s'arranger. Concernant même les choses qu'on combat, on peut s'arranger quand notre intérêt supérieur... La Chine est communiste, on combat le communisme, c'est une dictature... C'est totalitaire, tout le monde n'arrête. Mais on ne critique pas la Chine parce qu'il y a du commerce derrière. Tout le monde accepte de traiter avec la Chine et de se taire sur le Tibet. Maintenant, la France, qui critique la Chine pour le droit de l'homme, ne place pas le Tibet devant le vent de quelques avions ou quelques centrales nucléaires. Donc, on va trouver son intérêt. Les individus sont plus ou moins pareils. Hein. Dans un conflit, les individus vont dire... Ben moi, c'est sûr que je vais me faire sauter, je vais mourir, c'est sûr. Mais est-ce que ça va changer la configuration du problème si je tue 3 ou 4 soldats? Il dit, mais 3 ou 4, c'est mieux. Mais pour lui, ça va changer quelque chose. Il aura tué 3 ennemis. Donc, ou alors en me disant, mes actes suffiront pour changer le truc. C'est le principe de Gandhi. Pas sur la violence, mais... Quand Gandhi s'est opposé au monopole du sel, il a accepté une violence passive. Une violence passive. Il n'était pas actif, mais il a accepté de faire avancer des rangs de gens devant des gardiens qui allaient les matraquer. Et donc il a accepté de subir une violence sans réaction. Et il y a eu quand même des centaines de personnes qui ont été blessées. Donc, quelque part, il a utilisé la violence de l'autre pour rendre l'autre... pour le rendre non crédible. Donc, bon, il est très difficile dans l'instant T de savoir ce qui va en suivre, un T plus 1, T plus 2, encore moins T plus 2, T plus 3, parce que la perspective, là, quand on a la connaissance du futur, il est évident que l'individu, là, c'est Dieu qui lui a révélé ce qui allait être le futur, donc il le sait. Donc il peut s'exprimer facilement, mais nous, nous n'en avons pas, et ce qui n'empêche pas que les individus qui vont vivre ces temps-là le vivront avec souffrance. Je continue. Donc, pour arriver au troisième élément, quant au mur, il appartenait à deux orphelins de la cité dont leur père était un saint homme. Donc on a orphelin important, puisque l'orphelin est quelqu'un à protéger par un truc, et la référence au père qui était saint aussi, qui était pieux. Il possédait un trésor sous les murs. Donc les enfants avaient un trésor qui était caché sous ce mur-là. Voilà, qui était un saint homme. Donc on retrouve de nouveau, comme les parents croyants, nous trouvons un saint homme qui est censé être un degré supérieur à la croyance. Parce qu'un saint est plus important qu'un croyant. Allah a décidé qu'ils atteignent la force de l'âge et qu'ils puissent sortir leur trésor par sa miséricorde. Donc, l'histoire, c'est quoi? On a un trésor qui était caché par le père sous ce mur.
Eux ne le savaient pas, les enfants.
Les enfants ne le savaient pas. Dieu a décidé qu'ils devaient trouver ce trésor-là, mais qu'ils devaient le sortir par eux-mêmes. Donc, ils vont sortir le trésor par eux-mêmes. Donc, il fallait qu'ils atteignent un certain âge de force physique pour pouvoir tout. Alors, quel est le rapport avec le mur qui s'est écroulé?
Ils auraient trouvé le trésor trop tôt.
Il est sous le mur. Il n'est pas dans le mur, il est sous le mur.
Le mur, il s'écroule pour donc le refaire. C'est le même geste que tout à l'heure pour le bateau.
Non, parce que le mur, le trésor est sous le mur.
Justement, si le mur s'effondre, après, il va découvrir, enfin, le trésor va se découvrir.
Non, il est sous terre. Ouais, les murs, ils sont sur la terre, le trésor est sous la terre, le mur s'écroule.
Ils vont ramasser les gravats et tout.
C'est... Non, non, non. C'est encore un élément qui est incompréhensible et qui n'est pas révélé même à lui. Il n'y a pas de corrélation entre un trésor cassé sous terre avec un mur qui se trouve au-dessus, qui s'écroule et qu'on ait l'obligation de redresser le mur pour éviter qu'on ne découvre pas le trésor. Donc on a un élément qui est encore ignoré. On sait que l'homme, qui est un saint homme, donc, et Allah ne perd jamais les bonnes actions du saint homme, donc le saint homme a placé un trésor. Pourquoi il a placé le trésor sous ce mur-là alors qu'il avait des enfants et qu'il aurait pu leur laisser? La réponse est dedans.
Non, parce que les enfants devaient le trouver eux-mêmes.
Pas seulement. Non, ça veut dire qu'il ne leur a pas donné parce qu'ils étaient trop petits. Et donc, ils ne pouvaient pas contrôler leur argent, donc ils auraient pu être dilapidés de leur fortune par ceux qui étaient la charge des orphelins. Donc, en fin de compte, c'est une sauvegarde de leur fortune en l'enfuissant pour éviter qu'elle soit prise par les autres. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous allons avoir donc des enfants qui vont récupérer leur argent, en faisant un effort eux-mêmes de le trouver, mais est-ce qu'ils le savaient que le trésor était caché ou pas? Ça, on ne le sait pas. Pourquoi le mur a été reconstruit? Nous ne le savons pas. Donc, il y a encore une partie de l'énigme qui est cachée et qui n'est pas révélée. Et donc, nous avons, dans le premier cas, tout nous a été expliqué. Dans le deuxième cas, des perspectives, qui a permis de poser des questions, est-ce qu'on n'aurait pas pu corriger cet enfant et tout, donc et des trucs. Mais dans le troisième cas, on a encore des choses à laquelle on ne pourrait même pas répondre. D'accord? Et alors, il dit, je n'ai rien fait de tout cela de ma propre initiative, voilà l'explication de ce que tu n'as pas pu supporter. Donc, ce que tu n'as pas pu supporter, c'est-à-dire les actes que tu as vus. Et le tout est résumé, « Ma fa'altu an amri » Je ne l'ai pas fait de ma propre volonté. Donc, les actes du Khadr sont dus à une révélation et en fait, il n'est que quoi ? Exécutant. il ne fait qu'exécuter les ordres de Dieu. Donc, ce qui veut dire le verset, toute interprétation d'un signe ou d'une approche, quelle qu'elle soit, n'est pas du domaine de la religion et n'est pas du domaine du compréhensible. Quelqu'un ne doit pas réagir parce qu'il a fait tel rêve ou tel rêve, ou parce qu'il a interprété tel signe ou tel signe, tant qu'il n'a pas un ordre précis. Comme Dieu ne nous parle pas d'une manière très claire, nous ne pouvons pas conditionner nos actes sur des suppositions. D'accord ? Et donc, ça doit rester... On doit exécuter que ce qui est compréhensible et admissible par nous à chaque instant. Voilà, nous avons terminé donc l'histoire de Chov. L'histoire qui suit, on terminera la prochaine fois, Inch'Allah, concernera la fin du verset de Nukif. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfiruhu tajidu ghafurur rahim. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katheera.